Vous écoutez RTL.
Nightlist. RTL. Éric Jean-Jean.
La première heure.
Salut à tous et bienvenue sur RTL pour la première heure de la semaine. Elle est actrice, réalisatrice, maman. Elle a réussi l'incroyable grand écart cette année à jouer dans Avengers et à réaliser Lolo, qui est un film que Woody Allen ne réfuterait pas tant il est bien écrit. Alors que tout le monde connaît son nom, son visage, quelques-uns de ses rôles ou films, je me suis rendu compte en préparant cette émission que je connaissais pas grand-chose d'elle à part son boulot. Et puis ses chansons. Alors que son nouveau film est dans les salles mercredi, avant de passer une semaine promo un peu hard, Julie Delpy passe la première heure de la semaine, une semaine importante, avec nous sur RTL. Bonjour Julie.
Bonsoir, ça va ?
Ouais. J'ai l'impression qu'on s'est déjà croisé dans ce studio, mais j'arrive pas à me rappeler.
Moi je crois aussi, oui.
Ouais, quand vous étiez venue chanter.
C'est possible, ouais.
Mais d'ailleurs c'est fini l'histoire de la chanteuse ?
Non, mais en fait, le disque ça s'est bien passé, mais pas extraordinaire. Ouais. Du coup j'ai... j'écris toujours de la musique, j'écris pour moi, j'ai écrit pour mes films, j'ai écrit pour un film qui s'appelle La Comtesse, j'ai écrit pour mes propres compositions. C'est pas des trucs géniaux, mais je veux dire...
C'était compliqué La Comtesse quand même, Julie, hein ?
Oui.
Oui, parce que c'était un film d'époque, tout ça.
À l'origine, j'ai une formation classique de musique. Donc après que je joue de la folk sur une guitare, c'est autre chose, mais non, j'ai une formation très classique de solfège, j'ai joué dans des orchestres, enfin j'ai joué de la clarinette, c'est pas un instrument très 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 drôle, mais bon, j'ai un grand sens de la musique classique, quoi. Donc ouais, pour moi, ouais, d'écrire de la musique un peu classique, c'est pas quelque chose d'impossible, ouais. Du tout.
Mais et du coup, peut-être un autre album mais plus tard, mais pour l'instant on va parler de ce film. L'enjeu de la semaine, c'est la sortie de Lolo. Alors voilà, on va en parler de ce film un petit peu plus tard dans l'émission. Karine Viard, Danny Boone, Vincent Lacoste, ouais. Sublime tête à claque. et vous, devant et derrière la caméra. Je veux dire, on va commencer par l'enjeu économique de la sortie d'un film. Julie, est-ce que ça joue sur le prochain travail que vous allez faire ?
Ben écoutez, ça peut jouer, en effet. C'est toujours mieux que les films marchent. Ouais. Il faut le dire. Non, ça joue évidemment sur les prochains films, les prochains projets. Mon prochain projet est un drame. Ce qui fait que peut-être Lolo, même si ça marche, ça ne m'aidera pas forcément à monter mon drame, puisque c'est très différent. Mais je pense que ça aide toujours un petit peu. Si un film marche, ça aide toujours, quoi. Ouais. Ça, c'est sûr.
Comment ça se passe ? C'est avec le distributeur que ça... Je reste sur les enjeux un peu économiques pour essayer de comprendre comment ça se passe quand on est réalisatrice. Parce qu'à un moment, quand vous avez fini votre œuvre d'art, vous rentrez dans le dur du marketing, vous rentrez.
Les gens voient le film, ensuite ils décident quel genre de sortie ça va être, ouais. Combien d'argent ils vont mettre derrière en pub, etc. Ouais. Et après moi mon travail de service après vente, c'est vraiment d'être là.
Ouais, bien sûr.
Vous faites partie de mon service après vente.
Non mais
il faut dire les choses un peu de manière réelle. Mais en même temps voilà, ça fait partie du boulot de promotionner un film,
ouais,
de faire des interviews, de faire ce qu'il faut faire.
On verra d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'émission si ça vous plaît vraiment. Est-ce que c'est vrai cette histoire de le mercredi à 10h si la salle des Halles ou je sais pas quoi est pas remplie?
Oui, c'est tout à fait ça. Et d'ailleurs
Non, mais enfin bon.
Alors après il y a des exceptions évidemment, mais très souvent quand t'as 14h, je crois que c'est le 14h quand il y a des gens ou pas des gens, après c'est un barème. Alors après, c'est ce qui est terrible avec les films, c'est il suffit qu'il fasse très beau ce jour-là et qu'il a pas fait beau depuis par exemple 3 semaines,
ouais,
pour que les gens vont pas au cinéma et du coup ça plombe un film. Ouais. On est très, 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 on est vraiment dans les mains de la météo en tant que cinéaste. Ah oui, complètement. Je veux dire, le nombre de films qui ont été qui ont eu un mauvais commencement, mais qui après peut-être ça peut se rattraper si le temps tombe au très mauvais temps le week-end, ça peut sauver les meubles, voilà.
Contrairement à un livre et encore même un disque qui peut durer un peu longtemps parce qu'il y a plusieurs singles, etc. Vous avez qu'un coup dans le fusil, ça dure quoi, 15 jours la durée de vie, la vraie durée de vie d'un film qui va faire qu'il marche ou qu'il marche pas.
Ben on le sait, enfin en
donc
une semaine.
Donc après il sort des salles, non ?
Oui. Si ça tient pas très vite, les exploitants sortent le film. Ouais. C'est-à-dire de leur salle. Et parce qu'il y a tellement de choses qui arrivent en même temps. C'est pas comme il y a 25 ans ou 30 ans, quand il y avait 5 films, 10 films, ouais, qui sortaient. Maintenant, c'est 30 films par semaine. Enfin, je sais même pas, c'est des chiffres absolument monstrueux. Donc, si on sort pas du lot très vite, on est vite jeté, quoi.
Bon, j'arrête de vous mettre la pression, là.
Oui, non, mais bon, ça suffit, maintenant.
Tiens, on va écouter la musique choisie. Alors, d'habitude, c'est moi qui choisis, mais là, en l'occurrence, elle a tellement bon goût, Julie, qu'on va écouter la musique choisie.
Ah oui, des fois, vous choisissez parce que c'est les gens au mauvais goût.
Mais non.
C'est ça que vous êtes en train de dire?
comment je suis grillé à la musique. Ted Kennedy sur RTL, choisi oui. par Julie Delpy. Pourquoi ?
C'est une chanson qui était dans le Skylab.
Ouais.
C'est une scène où la petite fille danse punk. Et ça c'était tellement mignon, c'est-à-dire ouais, je connais le punk, tout ça. Et donc il danse sur les Dead Kennedy. Il y avait un mini anachronisme parce qu'en fait la chanson est sortie, je crois, en 80 et que le film est basé en 79. Mais bon, c'est pas très grave.
On vous en veut pas tellement.
Non.
Alors moi j'ai un problème avec Skylab, justement, qui est un des rares films à vous que j'ai pas vu. Je suis embêté parce qu'il paraît que c'est très autobiographique.
Bah, c'est autobiographique, non, mais c'est aussi un peu romancé. Mais je sais pas. Moi, enfin, c'est un film qui m'est assez cher, quoi, je dirais.
Je connais le pitch, hein, l'histoire de cette petite fille qui a peur qu'un satellite lui tombe sur la tête, c'est ça, hein.
Oui, le Skylab, en fait. Skylab, oui, d'ailleurs, c'est pour ça que pas mal de gens n'ont pas compris vraiment de quoi parlait le film. Enfin, ils ont pensé que c'était un film de science-fiction, alors qu'en fait, c'est un film sur la famille. C'est sur le Skylab, c'est la première station spatiale qui est tombée sur Terre. En fait, qui s'est écrasé. Maintenant, il y en a plein qui s'écrasent. Hein. Il y en aura de plus en plus. Et qui s'est écrasé.
C'est gentil de dire ça.
C'est gentil. Ah, bah écoutez.
Non, mais je vois ça.
Si un satellite s'écrase le jour de la sortie de mon film, c'est pas une bonne chose, par exemple, sur Paris. Vous voyez ?
La promo, c'est un passage obligé pour vous ? C'est un moment marrant ? C'est quoi exactement, Julie Delpy ?
Non, écoutez. Je le prends comme c'est, quoi. C'est-à-dire, j'ai l'habitude, je le fais depuis toujours. C'est pas toujours facile. Il y a des choses plus faciles que d'autres.
Ouais.
Je suis pas quelqu'un qui sort beaucoup. Donc, en fait, c'est vrai que, par exemple, la promo, on est tout le temps dans les salles de cinéma, etc., avec plein de gens. On dit bonjour à beaucoup de gens. Et c'est vrai que moi, je suis un peu quelqu'un... Enfin, ma nature première, c'est d'être chez moi, à écrire avec mon fils, mon mari. Je suis hyper casanière, quoi. Donc,
ah ouais.
Donc ça change de mon naturel, quoi.
Et les plateaux télé, tout ça ?
Non, ça va. Je suis assez timide. Je suis assez pas tout le temps à l'aise. Des fois, je parais très à l'aise, mais en fait, je fais semblant. Mais en fait, je suis pas très à l'aise.
En fait, tu fais la maline.
Disons que je joue un rôle comme une fille super à l'aise, qui est rigolote et tout ça, mais en fait, je suis pas du tout à l'aise. Je suis un peu timide et je.
Et est-ce que vous avez quand même l'image d'une bonne cliente, comme on dit?
Je suis super à l'aise, mais je fais semblant.
Ouais, mais
je fais comme si j'étais à l'aise.
Vous avez les deux casquettes ou les deux nationalités. Qu'est-ce qui est le plus difficile en promo, l'Amérique ou la France?
c'est assez proche. Je dirais que le rythme des promos américaines est très très dur et assez peut être assez inhumaine parfois, c'est-à-dire c'est à la chaîne, etc. Oui. Donc il y a ce côté-là. Mais bon, en même temps, ils ont un grand pays, donc faut faire beaucoup, quoi. Il y a beaucoup de magazines. C'est pas quand on fait une tournée, soi-disant, ce qu'on appelle une tournée province, ouais, l'équivalent aux États-Unis, c'est qu'on fait 20 villes, qu'ils ont tous leur journal, qu'il y a que c'est enfin voilà, c'est 10 fois la France, donc c'est un peu compliqué, quoi.
Là, vous en arrivez, vous avez fait le tour de France avec
voilà, j'ai fait le tour de France
avec Lolo. J'ai fait mon tour de France avec Lolo, le film.
Ouais.
Comment ça s'est passé?
Oh, très bien, les gens étaient très gentils, c'était sympa. Bon, au bout d'un moment, j'ai mangé tellement les produits des régions que j'étais malade. Mais surtout le sud-ouest, je me suis tapé tellement de foie gras un soir que j'ai failli mourir. Mais à part le foie gras, non, mais j'adore le foie gras, c'est ça le problème. Non, non, mais j'ai mangé un peu trop, quoi. À part mon état gastrique, tout va bien.
Comment ça se passe? Vous préparez, j'allais dire, un sprint promo, c'est-à-dire vous dites, bon, alors je ne vais pas avoir beaucoup de temps quand je vais faire de la télé, donc j'ai à peu près une minute, 32 minutes, parce que c'est comme ça que ça se passe. Là,
oui,
on
oui.
essaye d'avoir un peu de temps, mais en règle générale. Donc là, vous préparez
mais
votre
j'essaye
pitch.
De ne pas y penser trop, parce que si je pense trop, je deviens un peu paralysée. J'essaye de ne pas préparer les présentations.
Oui.
D'être moi-même au moment où je suis là, de le faire au feeling, quoi.
Ouais.
Je pense que quand on se met à trop planifier, préparer, etc., je trouve que ça devient un peu un truc automatique, on répète toujours la même chose.
Bah oui.
Et en fait, on donne rien d'original à qui que ce soit. Et je trouve ça c'est un peu gruger les gens, quoi. C'est-à-dire, si on vient présenter un film, autant être, leur donner quelque chose d'unique à chaque fois, quoi.
Ouais.
Que chaque salle reçoit quelque chose d'authentique et pas un truc préparé où on fait son petit cirque et qu'on reparte.
Je suis d'accord avec vous, Julie, mais vous noterez que nous, les journalistes, on va vous poser à peu près 50 fois la même question.
Ben oui, je réponds. Alors, parfois la même chose. D'ailleurs, les mêmes idioties, parfois. Ou après, je me rends compte. Non, mais je me rends compte. Des fois, je fais des erreurs de vocabulaire parce que ça fait longtemps que j'habite plus en France. J'arrête pas de dire que les personnages ont un langage châtier dans le film en pensant au mot chatte. Alors qu'en fait, châtier, ça veut dire très propre et très clean, un langage très.
Oui, parce que vos copines.
En fait, je voulais dire un langage de chartier, de chartière. Mais je suis passée à châtier, alors ça ne veut plus rien dire. Mais bon, peut-être qu'on peut avoir une nouvelle définition à châtier, ça peut être tout ce qui parle de chatte.
La première, oui, la première scène avec Karine Viard, au moment où vous glissez dans le bain.
Dans l'eau, où justement on parle de chatte.
Oui.
Oui.
C'est pas mal.
Non, non, on s'est amusé à les dire, ces phrases, tout ça. Moi, je me suis beaucoup amusée à les écrire. Tout ce qui est un peu gouaille, un peu justement langage de chartière, et non pas châtier.
Langage châtier, c'est pas mal.
Langage
aussi.
Châtier.
Mais avec deux
ouais.
T, je sais pas.
Oui, oui, oui. Langage châtier avec deux T. En fait, c'est très agréable à écrire tout ça. Et à dire aussi d'ailleurs, c'est très sympa.
Oui, et c'est un truc qui m'a frappé dans vos films, dans ceux que j'ai vus en tout cas. C'est la qualité de l'écriture du scénario, ce qui est assez rare.
Merci.
Et ce qui me plaît beaucoup, c'est pour ça que j'ai évoqué Woody Allen en parlant de l'ouverture. En fait, vous faites beaucoup d'efforts pour que les textes soient. Au-delà d'un
essentiel.
Dialogue normal.
Vous savez, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai commencé à jouer comme actrice, c'est quand j'avais des mauvais dialogues, j'étais pas bonne. Et je me suis dit, on peut pas sortir son épingle du jeu quand on a des dialogues de merde à dire. Et ça m'est arrivé quelques fois. Bon, heureusement, j'ai travaillé avec des très bons réals, donc j'ai pas eu ça trop souvent. Mais ça m'est arrivé quelques fois où je ne pouvais rien faire. Et du coup, c'est un peu de là qu'est venu mon amour de travailler le dialogue et de travailler le dialogue dans un réalisme, que ce soit goûteux, que ça donne du plaisir à dire, à entendre, tout ça. Et pour moi, c'est essentiel. Et il y a aussi tout un cinéma des années, par exemple, 40, que ce soit, je sais pas, moi, un film que j'adore, c'est La Règle du Jeu, ou tous les films avec comment il s'appelle, Simon. Et même après, plus tard, il y a eu un renouveau de ça dans les années 70, avec des films comme Les Valseuses, des trucs comme ça,
ouais.
Où tout d'un coup, le langage était... Il y avait quelque chose d'organique et de... Un
mais
peu...
Quoi,
voilà,
dis,
et ça manque,
pas,
quoi.
Enfin, on n'est pas habitué. Quand je suis rentré dans votre film, la première scène, justement,
ouais.
où c'est à la fois drôle et à la fois hard et à la fois super bien écrit, on n'est pas habitué à ce genre de dialogue qui ont l'air un peu trop intelligents. Et après, on rentre en deux minutes dedans. C'est pas ça le problème, hein. Mais c'est des, je sais pas, c'était vachement bien, quoi. Mais
ben moi, je trouve que voilà, mais on n'est pas habitué. Non, mais c'est sûr. Je pense que il y a pas mal de dialogues. Et puis en plus, je pense qu'il y a pas mal de dialogues qui disent pas grand chose aussi. Donc pour moi, le dialogue, c'est tout, quoi.
Nightlist, la première heure.
Stands alone in a cry. Frightful fire fear.
Delpy, l'invité de la première heure sur RTL. Alors pourquoi on écoute Yodelis? Parce qu'elle est dans la
bande-annonce du film.
Ah bah voilà, merci, j'ai eu peur que ça ne réagisse pas, vous m'avez fait peur, Julie.
Excusez-moi.
Est-ce qu'il y a des émissions de télé ou de radio que vous refusez?
Bah oui, enfin on les refuse pour moi en fait.
Oui.
On les refuse pour moi. Parce que je ne connais pas tout, donc...
Ah oui, mais je pense à des talk shows où il y a des critiques qui vous en mettent plein la figure. Et c'est un peu compliqué, donc quand vous avez travaillé deux ans sur un film...
Mais alors moi, vous savez, c'est marrant parce que j'ai tellement pris de critiques dans ma gueule qu'au bout d'un moment,
tant
on est... Ah oui, quand même, j'ai eu des périodes très très dures. Donc je suis un peu immunisée en fait. Et d'ailleurs, maintenant, les critiques, ça me fait assez sourire, quoi. Enfin, il y a critiques et critiques. Alors il y a critiques qui sont un peu constructives, où on se dit, oui, ils ont un peu raison quand même. Voilà. Et puis il y en a d'autres où on dirait que c'est juste une sorte de haine qui est dirigée vers moi et pas forcément vers le film.
Ouais.
Une sorte de rage rentrée, frustrée, etc. Et là, pour moi, je peux même pas les lire parce qu'en fait, c'est absolument pas constructif, ça m'intéresse pas.
Ouais.
Ou c'est parce que le film parle, par exemple, Lolo, je sais qu'il y a des mecs qui ont vraiment été vexés par le film, qui ont dit « quelle horreur, ces femmes qui parlent de sexe !» et qui disent « il a une grosse bite toutes les deux minutes ». Alors j'ai dit « bah oui, bah, vous n'avez pas une grosse bite ». Ou alors, non, parce qu'en fait, de ne pas avoir une grosse bite, c'est pas grave, mais en fait, d'avoir une petite bite, de ne pas être content, ça pose des problèmes. Donc, en fait...
Je voudrais recadrer aux auditeurs d'RTL.
Excusez-moi, j'ai pas le droit de parler comme ça. Mais je comprends.
Non, Julie, vous avez le droit de parler de grosse bite, le problème, il n'est pas là. Mais c'est pour expliquer pourquoi vous parlez de grosse bite.
Parce que le film, le personnage de Jean-René, on dit qu'il a une grosse bite.
Tombe amoureuse de Jean-René, qui est joué par Danny Boone. Et l'un des
attributs de Danny Boone, c'est une blague. C'est une blague. Jean-René a une grosse bite. Non, mais il est surtout très gentil.
J'adore Jean-René.
C'est pour ça que Danny a accepté le rôle, d'ailleurs.
Oui, je comprends.
Comment faire qu'un acteur accepte le rôle? Dites qu'il est bien monté, tout le monde est content. Non, mais c'est aussi simple que ça.
très bien, je vois.
Non, mais je crois qu'il y a une rage. Là, je prends un exemple, ça, pour déconner. Mais en fait, je pense qu'il y a une certaine rage, des fois, dans les critiques, qui n'a rien à voir avec la qualité du film. Et là évidemment, j'ignore. Enfin, mon père me dit toujours, les chiens aboient, la caravane passe. Donc, depuis toute petite, je me vois comme une grosse caravane. D'ailleurs, je visualise
une caravane
avec
caravane.
Moi, vous savez, comme le dessin animé avec
Cars.
Voilà, c'est ça. Je me vois moi, une caravane et les chiens bois.
C'est une bonne image de vous, Julie.
Oui. Une caravane.
Je suis épaté par votre.
Non, mais j'avance, quoi.
C'est toujours ça de pris. Pour la première fois dans ce film, vous avez fait appel à. Je crois que c'est la première fois. Hein, vous faites appel à un compositeur. C'est pas vous qui avez fait la musique.
Oui.
Pourquoi?
Et c'était formidable. En fait, vraiment, composer la musique de film, c'est épuisant parce que après avoir écrit, joué, réalisé, déjà je suis pas une grande compositrice, faut le dire, loin de là, très très loin de là, même si j'ai beaucoup fait de musique, tout ça, mais surtout c'est juste l'enfer, quoi. Mais là j'ai trouvé un jeune mec, Mathieu Lambollet, qui a non seulement était très rapide, très ouvert et a fait son travail très très bien. Voilà, il a fait exactement ce que je voulais. J'ai réussi à traduire ce que je voulais pour la première fois, quoi, d'une certaine manière. Parce que j'avais essayé sur d'autres films et en fait, les compositeurs étaient assez... Ils me disaient, ah ben non, moi je change rien. Enfin, j'ai eu une expérience un peu perturbante qui m'avait fait, du coup, j'avais fait de la musique de tous mes films à cause de ça.
Mais en fait, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai parlé à des copains chanteurs qui arrivent pas bien à faire des musiques de films, justement. Hormis Yodelis, d'ailleurs,
hein,
qui en a fait. Ouais, parce que c'est difficile de se mettre dans l'univers ou dans, je sais pas, dans le.
Mais surtout, c'est qu'on se met au service d'un film, quoi. C'est pas toujours très gratifiant pour un compositeur de faire la musique d'un film. C'est pas comme faire ses propres chansons, etc. Je pense que c'est un peu plus dur.
Julie, comment ça se passe? D'abord, vous avez une histoire. Ensuite, vous écrivez le scénario en pensant à des personnages. Comment ça s'invente, un film? C'est un peu opaque pour moi, hormis
comment ça s'invente.
Justement,
ouais. Ben, moi, généralement, je passe. Le temps de gestation est assez long, c'est-à-dire que je passe pas mal de temps à réfléchir aux personnages, à l'histoire, etc. Donc ça, c'est là que les choses prennent forme, pas forcément sous forme d'écrit d'ailleurs, ou alors de petites notes, de résumés de l'histoire. Donc je construis le film et les personnages, beaucoup aussi, évidemment. Et en fait, la période d'écriture peut être assez rapide. Par exemple, la scène du train entre les deux femmes, qui est quand même une grosse, grosse scène, j'ai dû l'écrire... en une heure ou deux, parce que j'avais bien réfléchi à la scène, j'avais bien compris les personnages et du coup tout sort naturellement, quoi.
Ça se passe dans le TGV avec une autre troisième qui
qui est témoin des horreurs qu'elles se disent, quoi, mais...
Quel est votre rapport, on va changer de sujet mais on commence à rentrer au milieu de la nuit là. Quel est votre rapport à la nuit? Vous êtes couche-tard, couche-tôt, comment ça se passe?
Je suis couche-tôt naturellement, couche-tôt, mais complètement insomniaque. Donc je me couche, mais je dors pas tout le temps, quoi. Oh, et puis je souffre d'insomnie terrible, d'insomnie du matin aussi. Je me réveille à 2h, 3h du matin avec des insomnies, des pensées qui tournent en rond. Je me réveille.
Oui, ça c'est le principe. Je prends
des cachets naturels ou pas. Des fois, il m'arrive de prendre des trucs un peu plus forts. J'essaye d'éviter. Je prends de la valériane le plus souvent, mais c'est l'enfer. J'ai un cerveau qui tourne
À plein régime tout le temps.
Ouais, tout le temps. Et c'est épuisant. C'est vrai que très souvent, je dors 4-5 heures par nuit, quoi. C'est à peu près mon temps de sommeil. Ce qui est pas tout le temps assez, quoi, d'une certaine. Alors, en même temps, je dors profond, hein. Parce que quand je dors, quand je passe, en fait, on dit en anglais pass out. Ça veut dire je m'évanouis
quand
pratiquement.
Quand je m'écroule.
Je m'écroule de sommeil, ouais. Littéralement, tellement je suis crevée. Des fois, il m'arrive d'avoir 2-3 semaines d'insomnie intense, c'est-à-dire où je me dis, mais est-ce que mon cœur va pas lâcher tellement je suis insomniaque, quoi. Ouais.
Ah oui, et vous faites des siestes, des trucs comme ça, vous récupérez jamais.
Mais non, impossible de dormir. C'est-à-dire, quand je dis que je suis insomniaque, c'est vraiment que je dors pas la journée, la nuit, pendant une semaine ou deux de cauchemar intégral, quoi.
Et qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous tournez virer dans...
Alors, je dors bien quand mon fils est avec moi. Je dors mieux. Je l'ai pas tout le temps, malheureusement.
Pauvre chou.
Mais ouais, je le mets dans le lit, des fois même, je me mets dans son lit. Enfin, je sais pas, faudrait peut-être que j'arrête.
Bon, ah non, 23 ans, ça va.
Attends, non, il a 6 ans, il est tout petit, il est tout mignon.
Qu'est-ce que vous faites alors quand vous dormez pas, du coup?
Écoutez, je vais pas vous dire tout. Non, pas que ça. Non, je lis. J'essaye d'éviter de regarder l'ordinateur parce qu'apparemment c'est pas très bon de regarder des écrans lumineux.
Non, je pense à Violette qui fait un truc pour essayer de dormir à un moment dans...
Oui, c'est ça.
Regardez ça. Le film. Mais je vais pas vous griller.
J'ai arrêté de faire ça parce que ça marche pas du tout. J'ai réalisé que c'était pas du tout bien. Non, j'essaye de lire des bouquins. Les bouquins, ça marche mieux que tout. Des bouquins de science, par exemple. C'est ce qui me fait au bout d'un moment, je m'endors.
Est-ce que vous avez ces angoisses de gosse la nuit?
Peur?
Ouais.
Non. Moi, mes angoisses, enfin, moi, c'est très dur parce que je suis souvent en voyage. J'ai beaucoup le décalage horaire, déjà. Hein. Ce qui aide pas. Et en plus, quand je suis pas avec mon fils, j'ai des angoisses sur mon fils, quoi, qu'il lui arrive quelque chose. Donc, je vis un peu un cauchemar. Je suis en garde partagée, c'est pas toujours très, très bien, quoi.
Il vit où, lui, aux États-Unis?
Il est aux États-Unis et moi, quand je vis en France, je perds mon temps avec lui, quoi. Enfin, je perds mon temps.
Oui, je comprends.
C'est-à-dire que le temps des 50-50, tout d'un coup, disparaît complètement. C'est-à-dire que je rattrape pas ce temps-là. Donc à chaque fois que je suis en France, je perds
du temps, ouais.
Et c'est déchirant.
On va écouter Lou Reed pour vous remettre la morale. Ça fait combien de temps?
Oui, enfin,
Lou Reed. Oui. Bref, on écoute.
Oui.
Julie Delpy est avec nous sur RTL pour la première heure.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep.
Sur RTL.
Quelle belle chanson. Hein.
Just a Perfect Day. Ouais, c'est une chanson magnifique, c'est une chanson très douce qui paradoxalement parle de quelque chose qui ne l'est pas du tout. Hein.
Ouais, non, mais de toute façon, Lou Reed, on s'est fait tout en tournée province, j'étais avec Lacoste en Bretagne et tout ça, ouais. On s'est fait tout Lou Reed, enfin pratiquement tout Lou Reed. Ça ne parle que de suicide,
de drogue,
de femmes, hommes, prostituées,
ce n'est que ça. Et d'ailleurs, Perfect Day, ouais, c'est pour lui la journée parfaite, c'est une journée que sa dose de drogue.
Ouais. C'est pour ça que c'est si doux. Ouais, non, l'héroïne, je connais pas.
Alors, vous parlez de Lacoste, ça tombe bien. Il s'agit pas des chemises, mais de Vincent.
Oui.
La blague pourrie. Vincent, c'est Lolo, Éloi, fils de Violette dans votre film. Alors. Le pitch, Violette, elle est en vacances
à Biarritz.
D'ailleurs, vous n'avez pas tourné à Biarritz, j'ai vu que vous avez tourné une scène à Saint-Jean-de-Luz.
Non, mais on a tourné. En fait, ils sont en vacances à Biarritz et Saint-Jean-de-Luz.
J'adore cet endroit, c'est pour ça que je connais. Vous savez, quand, le bord de la plage, comme ça.
D'ailleurs, le spa est à Saint-Jean-de-Luz. Hein.
Oui.
Donc, on a tourné pas mal. En fait, c'était l'idée, c'est qu'elle restait entre Biarritz et Saint-Jean-de-Luz. Les
très
deux,
bien.
D'ailleurs, on parle de Biarritz, mais c'est très. Voilà, elle passe du temps à Saint-Jean-de-Luz aussi, quoi. C'est très
voilà,
proche.
Donc Violette avec sa meilleure copine
Ariane,
qui est interprétée par Karine Viard,
oui.
Qui est absolument incroyable. Donc justement, les filles ont des dialogues un peu crus, vous l'avez compris. Elles se font une soirée de la dernière chance, qui est un barbecue un peu tout pourri,
où elles retrouvent parce qu'elles l'ont croisé sur le port avec son poisson. Il a pêché un gros thon.
Qui vous achetait sur les genoux, sans faire gaffe.
Et ils font une soirée ton, évidemment.
Ouais.
Donc elle le retrouve au soirée ton, et là, ils se draguent. D'ailleurs, c'est pas génial comme plan drague, mais bon, ça finit qu'une semaine plus tard, ils sont. Ben oui, il est gentil.
Et puis là, on l'a déjà dit.
Non, mais pas que ça. Hein. Il fait aussi des choses gentilles aux dames, elle est contente. Enfin, en tout cas, elle est contente.
Voilà, et lui, il est un peu province, c'est joué par Danny Boone.
Un peu naïf, un peu gentil, un peu mec qui voit le verre à moitié plein tout le temps.
Ouais.
Un mec sans cynisme, qui elle, pour elle, est une vraie aventure, puisque, et très exotique, puisqu'elle vient de Paris, où elle n'est qu'avec des cyniques, qu'avec des,
voilà. Puisqu'elle travaille dans la mode. D'ailleurs, ce qui est assez étonnant, c'est que vous réussissez à être très gentil avec le personnage de Danny Boone, c'est-à-dire qu'il passe jamais pour un con.
Non, je voulais pas que ce soit une caricature, c'est pas le dîner de con, c'est pas le bonnet. Je voulais pas en faire une caricature, surtout, les gens de province sont pas des.
Non, idées.
C'est surtout que je me moque du parisianisme et du côté un peu snob, etc., de Violette et des personnages autour d'elle, quoi.
Oui.
Mais au final, elle moins que pas mal de gens autour d'elle.
Oui.
Mais au final, lui, le personnage déménage à Paris parce qu'il doit déménager à Paris pour son travail. Et en fait, ils vont commencer une relation amoureuse,
Et Violette est très amoureuse, en fait.
Oui, oui.
Et elle lui présente Lolo, c'est-à-dire Éloi.
Éloi.
Son grand-fils.
Enfin, elle lui présente. Il tombe sur Lolo.
Oui.
Qui est dans son lit quand même dès le départ, quoi. Il est dans le lit de sa mère, oui.
Et donc Lolo, qu'on pourrait imaginer un peu comme un tanguy au départ, s'avère être autre chose.
C'est un faux tanguy, c'est un tanguy. En fait, c'est son decoy, comment dire en anglais, son masque, sa cachette, c'est faire le tanguy, mais en fait c'est un personnage complètement diabolique.
Et vous jouez avec Vincent Lacoste, c'est pas la première fois d'ailleurs qu'il était dans Skylab.
Il était dans Skylab, il est génial dans Skylab. Quand vous verrez le film, vous verrez comme il est bien.
Je suis désolé.
Non, mais c'est pas grave. Attendez, comme si j'attendais que tout le monde voit tous mes films, vous êtes fous.
Mais en tout cas,
il est très bien dans le Skylab, et là, il est formidable.
On a envie de lui mettre des baffes.
Ouais. Ah bah, il est infernal, et puis il torture ce pauvre Danny tout le film, quoi.
Ouais.
Et le personnage de Danny, Jean-René, c'est quelqu'un de naïf, donc qui ne voit pas le mal. Il y a des gens comme ça, hein.
Ouais.
Ça leur prend des années. Moi, j'étais comme ça. En fait, le personnage de Danny est assez proche de moi d'une certaine manière. C'est pour ça que je me moque pas de lui. Non, mais quelque part, moi, j'ai été victime du barisianisme, du machiavélisme toute ma vie. Parce que moi, je suis une bonne patte, je suis un peu une naïve, au fond. Parce que moi, je vois pas le côté machiavélique de certaines personnes, je suis complètement. Pour moi, c'est impossible parce que je vois pas trop le côté sombre des gens. J'ai une tendance à penser que les gens a priori n'ont pas intérêt à faire du mal aux autres, mais en fait, c'est faux. Il y a des gens qui ne pensent que dans le ouais. maléfique. Donc, quelque part, je pense que le personnage de Dany, il est un peu ça. Il a ce côté où et elle aussi, d'ailleurs, Violette, elle voit absolument pas. Bon, elle est aveuglée par son amour maternel.
Oui, après, c'est une maman et qu'elle lui a dit un jour qu'il était la personne qu'elle aimait le plus au monde. Et elle le pense en plus vraiment.
Mais oui, elle le pense en plus vraiment. C'est ce que disent les mamans. Ouais. Mais le problème, c'est que lui, il l'a pris à la lettre. Il pense qu'il est vraiment l'amour de sa vie et que personne d'autre ne doit l'être. C'est ça le problème.
N'en dites pas trop.
Oui, je vais pas en
trop. C'est marrant, ça fait deux fois depuis le début de cette interview que vous me parlez de la méchanceté des gens ou de la, par exemple sur les critiques. Vous dites à un moment, je me suis fait défoncer. Et puis là, vous dites, moi, je suis plutôt naïve et plutôt gentille. J'ai pas eu l'impression que vous en ayez pris autant que ça. Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, peut-être que je suis paranoïaque aussi. Hein. Non mais sérieusement, je suis parano.
Je
souffre de paranoïa. Non mais ça c'est sûr, je l'ai remarqué de plus en plus parce qu'à chaque fois j'imagine que les gens disent du mal de moi, que je suis complètement parano, mais ça vient de l'enfance, c'est parce que j'étais un boudin petite et que tout le monde se foutait de ma gueule. Non mais c'est vrai en plus. J'étais un peu une petite grosse avec des lunettes, pas vilaine mais je me trouvais super moche et les enfants étaient horribles avec moi. J'ai vécu un enfer en tant qu'enfant. Du coup, ça m'est resté ce côté tout le monde me déteste donc je reste le voilà. Bon enfin c'est pas grave, on va pas faire de la psychanalyse mais voilà.
Non, c'est pas l'heure. Est-ce qu'Éloi il ressemble à votre vrai fils finalement ?
Alors pas du tout. Pas du tout, même physiquement, rien à voir. Ouais. Mais mon vrai fils est très c'est angélique aussi d'ailleurs
Léo,
comme
quand
Vincent.
Même, hein. Léo,
Lolo, oui. Il y a du L, du O, du E. Ouais. Il est très différent. Mon fils a 6 ans et demi, donc déjà.
Oui.
Déjà, le machiavélisme, il se pose là quand même. Enfin, il n'est pas très présent encore. Mais quand même, je remarque des petites choses de manipulation, de, maman, j'ai mal au ventre, je veux du chocolat. Je vois pas le rapport, mais. Mais il n'est pas encore bien rodé là-dessus, tu vois.
Il y avait des suites souvent dans vos films, Today in Paris, Today in New York, etc.
Ouais.
Est-ce qu'il y aura une suite de...
Je pense pas, non. Je pense pas qu'on va faire la suite avec la fille. Ce serait rigolo, mais je pense pas, non. Non, j'ai fait les suites Today in New York. J'avais encore envie de parler de ces personnages, du père, etc. Ouais. Merci. Non, j'avais encore, c'est-à-dire Today in Paris, j'avais exploré qu'une tellement petite fenêtre dans la vie de cette fille et de sa famille, etc., que j'avais envie d'aller un peu plus loin. Quoi.
Ouais. On écoute Jimi Hendrix et vous me dites pourquoi ou bien vous me dites pourquoi et on l'écoute. On fait comment?
Je vous dis pourquoi. J'adore Jimi Hendrix et mon fils aussi.
Votre fils aussi?
De 6 ans et demi.
Pas mal.
Ouais.
Il fait de la musique déjà ou pas?
Oui, il fait du piano, mais surtout il a très bon goût en musique, on sait pas d'où ça vient. Non mais sérieusement.
Coming to get you.
Jimi Hendrix. Alors ça, c'est choisi justement par July.
July Delpy,
qui me disait pendant la chanson qu'en fait son fils adore Jimi Hendrix.
Mais il
est rigolo, votre fils.
Non, mais
il aime
les Beatles, il aime Jimi Hendrix, il aime Jim Morrison. Il a une sorte de passion.
Gaffe,
il aime bien aussi les Stooges.
C'est pas mal.
Les Stooges.
Mais alors faites gaffe, parce qu'il écoute que des musiciens un peu barrés. Hein.
Ouais, il aime le rock, quoi. Il aime le rock. Marrant, il aime pas du tout. Par contre, le jazz, Nina Simone, tout ça, ça intéresse pas. Ouais. Mais par contre, tout ce qui est très rock, il adore. Et rock d'une certaine époque, quand même, il est pas.
Ouais. Mais c'est quoi, vous l'avez éduqué à ça ou même pas? Mais son père est musicien aussi.
Son père est musicien aussi. Moi, j'écoute pas mal de musique. Et puis, je sais pas, je crois qu'il comprend que, par exemple, Jimi Hendrix, quand il joue de la guitare, que c'est assez impressionnant et que c'est pas juste de la FM de bazar, quoi. Enfin, de trucs. Voilà.
Julie, faut me faire une promesse.
Ouais.
Quand t'as 14 ans, il écoutera Miley Cyrus, faudra pas lui en vouloir.
Voilà. Ouais, mais il se laisse pas influencer par les autres, ouais. Les autres enfants. Non, il est intéressant parce que moi j'adore le fait que les autres enfants lui disent ouais, faut écouter ça et ça. Il écoute, il aime pas quoi. Mmh. Non, mais c'est bien, tant mieux quoi. Il sera différent des autres. Oh putain, il sera chié un petit peu, mais moi je veux pas qu'il rentre dans le moule quoi. Surtout en Amérique.
Ah oui. Moi, je rentre dans un truc où, dans une partie d'interview où j'ai laissé un grand blanc.
Oui.
Parce que je me suis rendu compte que je savais pas grand chose de vous, Julie.
Ah bon? Mais j'ai tout dit sur ma vie.
Mais je crois pas. Je crois pas. Fille unique.
Vous avez pas lu France Dimanche?
Non, c'est pas mon truc. Non, c'est vraiment.
Non, mais je plaisante pas. Je crois que j'ai pas fait d'accord.
D'Albert Delpy, Marie Pillet. Vous avez deux parents acteurs de théâtre. Vous faites vos études à New York.
De cinéma, oui.
Ouais, mais on a parlé de la petite Julie alors qu'il se trouvait moche, tout ça, pas mal de bêtises. Mais vous avez grandi comment?
J'ai grandi dans un champ,
en allant au théâtre. Moi, ma fille a grandi dans les studios de radio, par exemple.
J'ai grandi dans les loges de théâtre. J'ai grandi, en plus, mes parents n'avaient pas d'argent, donc les nounous, ça ne courait pas les rues. On en a eu, je crois. Une, elle a écrasé mon chat avec ses sabots, ça a été fini. Ensuite, on avait ma grand-mère qui s'occupait un peu de moi. Heureusement qu'elle était là, parce que sinon, j'étais toute seule. Quoi, en fait.
Mais c'est quoi, c'est des parents absents?
Non, très présent, parce qu'au final, ils jouaient au théâtre, donc je les voyais pas le soir, mais bon, je les voyais la journée, je les voyais le week-end, enfin c'était... Et puis, ils m'emmenaient partout, quoi. D'ailleurs, j'ai dû avaler des tonnes de fumée de seconde main, là, parce que j'y m'emmenais dans les cafés, dans les restos, je dormais sur les banquettes, j'allais dans les fêtes.
C'est super, ça, non?
Dans les fêtes de théâtre, donc c'était pas des trucs un peu malsains, tout ça, c'était très théâtreux, ça picolait du rouge, c'était assez sain, enfin, dans le genre, quoi. Donc, très cultivé, toujours des pièces intéressantes, qui allait évidemment de Shakespeare à Fernando Arrabal, en passant par Copy, en passant par des trucs assez edgy quoi. Mais
c'est une chance qui vous rend complètement différente, parce que les gosses de votre âge, ils regardent la télé, ils ont Goldorak, il y a Récréa 2.
J'ai eu Goldorak et Récréa 2 Casimir et tout ça aussi. J'ai eu les deux en fait.
Ouais.
J'ai eu les deux. Ce qui est un bon mélange, parce que c'est pas mal de donner aux enfants ce que les enfants doivent voir.
Ouais.
Et puis de donner autre chose aussi, quoi. Alors des trucs très adultes parfois, des films, des machins, Bergman, Godard. Mais en même temps, de montrer des choses un peu adultes aux enfants. Moi, je suis contre l'idée de faire à gueugue tout le temps avec les enfants. Je pense qu'il faut il faut les pousser vers un truc un peu plus, de les élever, quoi. Petit peu du niveau bébé, quoi. C'est bien le côté bébé, le côté Disney. Moi, mon fils, il voit tous les Disney. Et il voit d'autres choses aussi. Je lui ai montré La Belle et la Bête. Il a adoré, par exemple, le vrai Belle et la Bête de Cocteau, quoi. Il a trouvé ça génial.
Hein. Comment est-ce que vous débarquez aux États-Unis et pourquoi les États-Unis pour vos études, New York, tout ça?
Je voulais faire mes études de cinéma à New York. J'étais fan du cinéma new-yorkais.
Enfin, faut trouver les sous, faut vouloir. Vous aviez quel âge?
J'avais bossé. Non, j'avais 21 ans.
Ah,
je bossais depuis l'âge de 14 ans.
Ah, oui, d'accord.
J'étais indépendante financièrement à l'âge de 18 ans. Donc, je suis partie de chez moi.
D'accord.
J'ai passé 2 ans seule à Paris, enfin, dans un studio. Et ensuite, enfin, je roulais pas sur l'or. Hein. Ma mère m'a prêté un tout petit peu d'argent à un moment, tout ça, parce que j'avais quand même des problèmes d'argent. Et après, je suis partie aux États-Unis.
Et pourquoi?
J'habitais chez des amis. La vie était beaucoup moins chère là-bas à l'époque. À New York, downtown, c'était pas l'appartement qu'on louait, c'était pas ce qu'on loue maintenant à 10 000 dollars. Mais et pourquoi l'Amérique? Pourquoi pas? Moi, j'étais allée à 18 ans à New York et ça m'avait botté. J'aimais beaucoup l'univers de New York, surtout de cette époque-là. Ça a beaucoup changé. C'était très très dur, beaucoup de drogue, de violence, tout ça, mais ça me fascinait. Et ça m'a toujours fasciné New York depuis petite. J'avais vu deux films qui m'ont beaucoup marqué. D'ailleurs, c'est des comédies musicales, c'est marrant, mais il y avait West Side Story et puis Air, deux films que j'adorais. Et puis après, il y a eu tous les films de, par exemple, After Hours. Moi, c'est un film que j'adore et j'avais envie de vivre dans cet univers-là, quoi.
Ouais. Et vous y restez longtemps?
J'y reste 2 ans et après, je pars à Los Angeles tourner un film, Killing Zoe.
Ouais.
Et là, je pense rester à Los Angeles un an. Mon agent me dit de rester pour voir comment ça se passe. Et j'y suis depuis 23 ans. Au niveau du boulot, c'est pas extraordinaire. C'est-à-dire que si, je travaille. Attendez, je plaisante. Je travaille et tout ça, mais... c'est pas vraiment Hollywood qui m'intéresse, c'est plutôt le cinéma indépendant. Et tout de suite, je me suis rendu compte que Hollywood, c'était pas exactement mon univers. Et même si j'en ai fait partie un petit peu ici et là.
Bah oui, vous avez joué quand même dans quelques très gros films.
Oui, mais en fait, c'est plus les films indépendants qui, quelque part, m'intéressent et m'ont toujours intéressé. Et d'ailleurs, c'est un cinéma qui est très dur à faire maintenant, spécialement maintenant aux États-Unis. C'est très bouché, quoi.
Ah oui.
Y a pas de financement indépendant.
Vous êtes pas tellement la Frenchie, d'ailleurs, quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes une Américaine.
D'ailleurs, je suis pas là, tellement là, quoi que ce soit. Non, mais c'est un peu difficile de me mettre dans une case, ce qui est un peu voulu de ma part, mais d'une certaine manière, les Américains adorent mettre dans des cases, donc, ouais. Mais d'ailleurs, tout le monde aime mettre dans des cases, donc je suis un peu atypique, ça fait un peu peur, du coup, on se dit que je suis une folle, incontrôlable, alors que tout à Hollywood est sur le contrôle, donc, le contrôle des artistes, en fait. L'artiste est artiste parce qu'on lui permet de l'être, mais il y a un vrai contrôle derrière quand même. Donc au final, voilà, bah, je finance mes films avec l'Europe, quoi.
Mais ce qui est, vous me parlez de cette enfance avec les acteurs de théâtre qui boivent du vin, etc., et c'est qui me paraît extrêmement libéré intellectuellement, oui. Etc. Et puis soudain, vous vivez aux États-Unis avec tout le contrôle. C'est pas exactement le contraire de ce que vous avez appris quand vous étiez
petite. Attendez, les Américains sont pas tous coincés, hein, non ouais. plus. Faut pas exagérer. J'ai beaucoup d'amis américains qui sont complètement déjantés, ouais. des intellos. Il y a de tout, hein, en Amérique, ouais. un mélange de tout. Je connais des gens très intelligents en Amérique et des gens très bêtes en France, donc on peut pas faire de caricature. Mmh. Non, vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Et des gens très intelligents en France aussi.
Mais non, c'est mais sûr je que c'est pas l'industrie du cinéma en fait. Et vous dites qu'il faut mettre dans des
cases.
Ah
ben l'industrie du cinéma, oui. Oui, c'est sûr que l'industrie du cinéma est très. Alors ça dépend. C'est en train de changer un petit peu. J'espère que ça va continuer à changer, quoi. Mais moi j'ai coécrit avec Ethan Hawke et Richard Linklater ces films Before Midnight, ouais. Sunset et Sunrise. Et ça par exemple c'est des films très indés, financés ouais. indépendamment des studios, etc. Mais voilà, mais il y en a pas beaucoup quoi en fait.
Juste une dernière question avant qu'on écoute un disque pour le coup français. Vous avez 15 ans quand vous faites Détective avec Godard.
Ouais, 14 en fait, j'avais 14 au tournage.
Comment vous êtes arrivé là et qu'est-ce que vous en gardez comme souvenir?
Ben, j'étais déjà, ma photo était chez les castings, etc. Et en fait, ça se passait très mal en casting. Hein. J'avais rencontré.
Vous étiez flippée?
Oui, déjà j'étais flippée. Puis surtout, ça se passait très très mal. On disait que j'étais trop timide, que j'étais trop, je sais pas quoi. Enfin, puis aussi, je voulais pas retirer ma chemise toute seule dans les appartements avec les réalisateurs de 50 balais. Il y avait pas de raison que je leur montre mes seins. J'avais vraiment, franchement, je trouvais que ça.
À ce point?
Ah oui. Non, mais attendez. Les gens pensent que c'est une blague, mais c'est pas une blague du tout, quoi. C'est constant, quoi. J'ai été harassée, mais alors, je me suis défendue. Mais justement, le fait que je me défende fait que, ben, je travaillais pas. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça m'est arrivé même après Godard, tout ça. Bon.
Les mecs qui veulent se taper les actrices.
Oui, mais les très jeunes actrices, hein, parce que j'avais 13 ans quand les choses se passaient. Oui. Non, mais je sais, c'est de la pédophilie. Mais bon, à l'époque, c'était complètement bien vu parce que il y a cette idée quand même en France que moi j'aime d'une certaine manière, mais que l'auteur, l'artiste peut tout se permettre. C'est en train de changer un petit peu, mais bon, bref, c'est pas très grave, c'est dans le passé, etc. Ouais. Mais bon, bref, je travaillais pas jusqu'à ce que je rencontre Godard ou Godard m'a rencontré. Alors là, bon. Là où ils ont tourné Détective au final, il y avait plein de gens, c'était pas du tout malsain, je me suis sentie très à l'aise, il a été adorable, un vrai gentleman, il m'a pas demandé de me foutre à poil, il a vu en moi une petite fille et il m'a demandé de jouer un des personnages dans Détective, quoi.
RTL Nightlist, la première heure.
Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin, faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit.
avec le temps. Tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, même les plus chouettes souvenirs s'attalent de ses gueules à la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort le samedi soir quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, l'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps va, tout va bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va, on oublie les passions et l'on oublie les voix qui vous disaient tout bas les mots des pauvres gens. Ne rentre pas trop tard, surtout ne prends pas froid. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va et l'on se sent blanchi comme un cheval fourbu et l'on se sent glacé dans un lit de hasard et l'on se sent tout seul peut-être mais peinard et l'on se sent floué par les années perdues. Alors, vraiment, avec le temps, on n'aime plus.
C'était Léo Ferré sur RTL.
Ouais, c'est triste, c'est beau. c'est triste.
Putain, c'est triste. Hein. Julie Delpy est avec nous pour la première. Je passe un bon moment, je suis ravie de faire votre connaissance, Julie.
Enchantée aussi.
On passe du temps. Voici le dernier questionnaire de cette émission, alors qu'on va qualifier de décalé. On a un peu parlé de tout ça tout à l'heure, mais combien d'heures de sommeil? C'est 4-5, vous avez dit?
Eh oui.
Combien de clopes par jour?
Des fois pas du tout, des fois 2, des fois 10.
D'accord. Combien de verres d'alcool par semaine?
Oh, des fois pas du tout. Et des fois 3.
Pas plus.
Non, je suis assez modérée. Hein. Je ne l'ai pas toujours été. Ouais. Mais maintenant, je suis modérée.
Mais j'ai l'impression que vous avez connu tout tôt et que vous êtes devenue sage plus tôt du coup.
Ben, disons que oui. Alors, par exemple, un truc que j'ai pas connu, c'est la drogue. Je me suis jamais droguée, j'ai jamais été intéressée par ça. Ce qui est dingue, c'est quand les gens me demandent sur la drogue, je dis, mais moi, j'ai jamais même vu de coke. C'est pour vous dire à quel point je suis genre saine, quoi. Ouais.
Combien de séances de sport par semaine, puisqu'on parle d'être saine?
Écoutez, des fois pas du tout, quand je suis par exemple en tournée promo, mais normalement au moins 3-4 fois.
Pas mal.
Ouais.
Vous faites quoi comme sport?
Je fais du yoga, du pilates et je fais de la marche à pied en montagne.
C'est un truc pour zénifier, ça, non?
Pourquoi?
Vous avez besoin de vous calmer?
J'ai besoin, je me sens très bien quand je fais du sport. Je me sens mieux quand je fais du sport que quand j'en fais pas, ça c'est sûr.
Combien de sorties par semaine? Alors pas beaucoup du coup.
Ah ben alors là, 2 par mois. Oui, oui.
Même pas des concerts?
Je sors pas de chez moi. Non, non.
Vous avez une grande maison, j'ai mal.
Ah non, non, j'ai un truc pourri, rikiki, le toit tombe. Le toit me tombe dessus, j'ai des ratons laveurs dans le grenier. Non, non, c'est pas du tout chic chez moi, non. Non, j'ai un joli jardin, mais par contre, la maison, c'est n'importe quoi.
Mais vous parlez de la maison en France ou aux
États-Unis ? Non, non, bah, j'ai pas de maison en France. J'ai 22 mètres carrés en France, c'est un garde-meuble. Je peux à peine aller me laver tellement la salle de bain est pourrie. Non, non, attendez.
Quand vous êtes en France, vous dormez où, par exemple ?
Alors là, ils me payent l'hôtel, ouais. Ce qui est super. J'adore être à l'hôtel. Alors, ce qui est bizarre, c'est que je pourrais maintenant j'ai gagné un peu d'argent, je pourrais enfin m'acheter une plus jolie maison. Mais en même temps, j'aime bien les côtés petites maisons. Je suis juste à côté de la chambre de mon fils. Lui, ça le rassure. Voilà, il y a un côté sympa. Moi, j'ai
vécu. Elle est où cette maison ? Elle est en Californie ?
Moi, j'ai été élevée. Oui, elle est en Californie, à Los Angeles. Moi, j'ai été élevée. Vous savez, les premières années de ma vie, on était dans 28 mètres carrés à 4, sans salle de bain. Mais bon, heureusement, après, ils sont agrandis un tout petit peu. On est passé à 26 mètres carrés, donc j'ai été après élevé. À 56, ouais, 56. De 28 à 56. Voilà, mais donc, voilà. Donc, mon idée du luxe, moi, de prendre des douches tous les jours, c'est déjà un luxe, vous voyez.
Est-ce que vous avez des phobies, des peurs, ascenseur, avion, voiture, solitude ?
J'ai très, très peur de l'avion. Ouais. J'ai toujours eu peur de l'avion, ouais.
Et c'est une catastrophe, Julie.
Oui, oui, bah.
Pour quelqu'un qui vit entre deux pays comme vous, comment vous faites ?
Oui. À qui le dites-vous ? C'est l'enfer. Non, mais ben, c'est le seul moment où je prends en fait des calmants, vraiment. Le décollage, j'ai l'impression de mourir. Quoi. C'est un cauchemar. Mais bon, ça va un tout petit peu mieux récemment. Mmh. Un tout petit peu mieux. J'ai lu un bouquin qui s'appelle « Comment vaincre la peur de l'avion ».
Vous savez qu'il paraît qu'Air France fait des stages ou des choses comme ça ?
J'en ai fait un.
Ah.
Ouais. Ça a marché un moment, puis là, maintenant, j'ai besoin de lire un livre qui s'appelle « Vaincre la peur de l'avion ». En fait, quand je prends l'avion, j'ai tellement peur, c'est vraiment, j'ai l'impression que je vais mourir. Quoi. C'est...
Est-ce que vous êtes hypochondriaque ?
Oui.
La dernière fois que vous avez vu un toubib ?
Hier.
Très bien. Est-ce que vous êtes du genre 5 fruits et légumes par jour ?
Oui.
Est-ce qu'il y a un plat auquel vous ne pouvez pas résister ?
La pastilla.
Est-ce qu'il y a une gaffe qu'il ne faut absolument pas faire devant vous ? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire devant vous ?
Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire devant moi ? Il faut pas agresser une femme avec un enfant. Il ne faut pas être méchant avec une femme avec un enfant, dans un train ou dans un lieu public.
Ça peut vous rendre dingue ?
Dingue.
Vous êtes bagarreuse ?
Très.
Vous êtes capable de sauter au cou de quelqu'un
Je me retiens souvent, oui.
Ah ouais.
Non, je suis très...
Pareil qu'en voiture, vous êtes un peu...
Non. En voiture, je suis quoi ? Un peu agressive. C'est normal. Je dis des injures, je fais des...
Très bien.
Non, non, c'est vrai que j'ai tendance à...
C'est en juste... français, les injures ?
Non, mais je deviens pas hystérique en voiture. Hein. Je suis pas genre super agressive. Je connais des gens... le père de mon fils est 100 fois pire que moi. Donc, je suis pas à ce point-là, quoi. Non, c'est plus les... Quand je vois des injustices, ça me rend dingue. Par exemple, quand quelqu'un accuse quelqu'un faussement ou insulte quelqu'un qui ne le mérite pas ou par exemple dit à une femme avec un enfant, il a intérêt à fermer vos gueules, vos fils dans le train parce que j'aime pas ça.
Oui.
Là, j'ai eu ça l'autre jour. Le mec, il s'est fait rembarrer, quoi. Parce que je prends la défense des gens. Moi, j'ai tendance à ouvrir ma gueule, à me défendre. C'est-à-dire, je suis pas le genre de personne. Si quelqu'un se fait agresser dans un bus, par exemple, j'ai tendance à gueuler, à me débattre, à aider la personne. Ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde.
J'ai bien compris.
Oui. Quand les gens tournent la tête, ignorent.
Ah oui, j'entends pas.
Même ouvrir la porte. Moi, l'autre jour, j'étais dans le bus. Moi, j'adore prendre le bus à Paris. Et il y avait une vieille dame qui a raté son arrêt et qui disait la porte, elle avait à peine de voir. Moi, j'ai gueulé la porte, mais personne ne l'aidait, quoi. Et j'étais hallucinée, quoi. Moi, des fois, je dis à des gamins dans le bus de se lever pour laisser la place à une dame, quoi. Je dis, hé, gamin, là, tu te lèves, tu laisses la place un peu de.
C'est très américain, ça, quand même.
Non, mais j'ai toujours été comme ça.
Ouais. Dernière question. Demain, vous devenez dictateur.
Oui.
Dictatrice. Vous avez tout pouvoir. C'est quoi la première loi que vous faites, Julie ?
Oh, quelle horreur. J'ai même pas envie d'y penser.
Très bien.
Non, rien. Je ne serai jamais dictateur. Je n'aime pas la dictature. Mais s'il y avait quelque chose à faire... Alors, si on peut être un dictateur positif, à ce moment-là, je forcerai toutes les industries du pétrole, toutes les industries qui détruisent la planète, etc., toutes les industries de l'armement à fermer. Donc, ils me buteraient dans la minute, d'ailleurs. Et j'imposerai un monde propre au niveau de l'environnement et un monde où on ne vend plus d'armes dans des pays, en Afrique, etc.
Une heure avec Julie Delpy. La prochaine heure, c'est moi qui vais l'animer sans vous, Julie, mais avec vos disques.
Super.
J'étais ravi de faire votre connaissance.
Enchantée.
Rendez-vous avec Lolo dans les salles à partir de mercredi. Et c'est de coutume dans cette émission, c'est vous qui aurez le dernier mot. Je vous demande juste un dernier truc, c'est comme un peu comme un service.
Oh !
Est-ce que vous pouvez finir votre phrase par RTL, il est une heure ?
Ah oui. Ici Julie Delpy, vous êtes sur RTL, il est une heure.